Midi 30, 13h.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Et bonjour Fabienne.
Ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. À la une, toujours la mobilisation des gilets jaunes, encore des points de blocage comme à Disneyland Paris ou sur les autoroutes. Nous ferons un point sur les actions en cours et nous serons à Fréjus dans le Var. Vous entendrez aussi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il en appelle à la responsabilité des manifestants. Alors que les rassemblements d'hier ont été endeuillés par la mort d'une manifestante, 400 personnes ont été blessées, dont 14 grièvement. Pas question pour le gouvernement de changer le cap sur la transition énergétique. La hausse de janvier est toujours d'actualité. C'est ce qu'a dit François de Rugy ce matin au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Emmanuel Macron, lui, est à Berlin pour célébrer la paix. Emmanuel Macron, dont la cote de popularité a encore chuté. On en parlera avec Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP. Il est mon invité. Le journal des sports et enfin une victoire pour le 15 de France. 28-13 face à l'Argentine, c'était hier soir. La météo. Attention aux pluies sur l'Occitanie, partout ailleurs, c'est du soleil.
Europe 1.
Encore des points de blocage ce midi tenus par des gilets jaunes. Ils sont près de 3500 à être restés mobilisés cette nuit sur 90 sites. Chiffre communiqué par le ministre de l'Intérieur. Et donc ce matin, certains ont poursuivi les actions. C'était le cas en région parisienne à Disneyland Paris. Victor Delande, vous vous trouvez à l'entrée du parc d'attractions. Et là, les gilets jaunes laissent passer les touristes gratuitement pour accéder au parking.
Oui, environ 70 gilets jaunes sont arrivés en voiture en milieu de matinée. Ils ont garé leur véhicule devant 7 guichets. Ils laissent passer gratuitement les visiteurs sur deux files. Les forces de l'ordre, elles, sont arrivées rapidement sur place. Ils ont discuté avec les manifestants et leur ont laissé jusqu'à 12h30. C'est-à-dire que depuis quelques minutes, le parking est à nouveau payant. Mais tous les véhicules, plusieurs centaines donc entre 10h et 12h30, ont fait une économie de 30 euros. Du coup, l'action, forcément, des gilets jaunes a été très bien accueillie par les visiteurs, comme l'explique Arnaud.
C'est des citoyens comme nous, hein, donc ils savent qu'on est là pour eux aussi. Hein. Ils klaxonnent, ils sont contents, ils sont heureux. Quand on leur dit c'est gratuit, ils sont super contents.
Ouais.
30 euros par véhicule, c'est magnifique.
Une opération parfaitement maîtrisée par les gilets jaunes le jour des 90 ans de la célèbre souris de Disney Mickey Mouse. Et tous les manifestants avec qui j'ai pu parler m'ont assuré qu'ils allaient continuer leurs actions dans les prochains jours. Ils ont d'ores et déjà posé des congés pour poursuivre leur mobilisation.
Victor Delande aux portes de Disneyland Paris, autre point de blocage cette fois dans le sud, sur l'autoroute A8 près de Fréjus dans le Var. On retrouve sur place Frédéric Michel. C'est déjà là hier que les gilets jaunes s'étaient rassemblés. Est-ce qu'ils sont aussi nombreux aujourd'hui, Frédéric ?
Alors non, hein, ils sont pour le moment une petite centaine, hein, rien à voir avec le millier de personnes venues hier bloquer presque totalement la barrière de péage de Fréjus, mais la détermination reste totale.
Ah mais on va continuer, même ce soir, même demain, même après-demain, tant qu'il faudra, tant que Macron ne démissionnera pas. C'est le peuple, hein, c'est pas les syndicats, c'est rien d'autre, c'est le peuple, donc on va tenir ce temps qu'il faudra.
Hier c'était structuré, aujourd'hui c'est un mouvement citoyen sans organisateur. Donc on voit, on ne sait pas comment ça va se passer, mais bon, on est des gens respectueux mais déterminés.
Des slogans Macron démission, des Marseillaises entonnées régulièrement. Même s'ils sont moins nombreux qu'hier, les gilets jaunes en voiture, à moto ou à pied font beaucoup de bruit. Ce matin, avant de prendre la direction du péage, ils viennent de s'élancer en opération escargot. Ils ont filtré l'échangeur de Puget-sur-Argent dans une ambiance bon enfant. Malgré plusieurs minutes d'attente, cet automobiliste soutient le mouvement.
Ah oui, il faut continuer, il faut pas se laisser faire, c'est bon, il y en a marre, on en a ras le cul. On n'en peut plus, on peut plus rien faire à l'heure d'aujourd'hui. Même pour nos petits, on peut plus rien acheter sans faire attention.
Alors les gilets jaunes azuréens espèrent bloquer la 8 une bonne partie de la journée, voire jusqu'à demain, et espèrent le soutien des routiers. Ils promettent aussi de monter à Paris le 24 novembre prochain. Ils se le répètent entre eux, le 24 novembre prochain, ils seront à Paris. Et là, je vous le disais, il y a quelques minutes, ils se sont élancés en direction du péage de Fréjus pour le bloquer.
Merci beaucoup Frédéric Michel en direct de Fréjus dans le Var. Voilà pour la situation donc à Fréjus. Hier, ce sont 287 000 personnes qui ont manifesté. Chiffre du ministère de l'Intérieur. Une mobilisation endeuillée par la mort d'une manifestante en Savoie. Près de 400 blessés, dont 14 dans un état grave. On y reviendra dans un instant. Mais on va voir maintenant où se trouvent les principaux points de blocage qui persistent. Des points de blocage qui en fait sont éparpillés sur l'ensemble du territoire, Romanoquet.
Oui, difficile.
difficile de trouver une région qui ne soit pas concernée. Des blocages nombreux mais qui regroupent quelques poignées de gilets jaunes, jusqu'à une centaine à certains endroits, comme à Caen sur le périphérique avec des opérations de filtrage. C'est aussi le cas à Rennes où une partie de la rocade est fermée. Dans la Loire, on compte même plusieurs centaines de manifestants sur tous les blocages. Si vous êtes en Gironde, attention, l'autoroute A10 est bloquée au péage de Vierzac au nord de Bordeaux. Au total, une cinquantaine de manifestations sont en cours sur les autoroutes de l'Ouest et du Sud. Des ralentissements sont à prévoir, surtout si vous rentrez de week-end. Alors, dans la plupart des cas, l'ambiance reste plutôt détendue, comme à Toulouse, au péage des Murets, où les gilets jaunes organisent un barrage filtrant sous les klaxons de soutien et les pouces levés des automobilistes. En Franche-Comté, dans le Limousin, le Doubs, les blocages des quelques centres commerciaux ouverts se poursuivent. Des actions qui, pour certains gilets jaunes, ont démarré très tôt ce matin, comme dans les Vosges, où ils ont passé la nuit dans leur voiture. Et beaucoup ne comptent pas en rester là. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages appellent à prolonger le mouvement toute la semaine.
Romane Hoquet, bien sûr, vous pouvez retrouver la carte de ces points de blocage sur le site europe1.fr. Alors hier, la mobilisation, je vous le disais, a été marquée par la mort d'une manifestante, une retraitée en Savoie renversée par une automobiliste. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a fait un premier bilan, 400 blessés. Donc, et parmi eux, 28 policiers, gendarmes et pompiers, 282 personnes interpellées, ce qui a donné lieu à 157 gardes à vue. Et Christophe Castaner en appelait ce matin sur Europe 1 à la responsabilité des gilets jaunes.
On m'indique à peu près 150 sites où les gens qui étaient sur place hier soir ont dit qu'ils reviendraient dans la journée. Nous allons observer ces sites-là, mais il appartient là aussi aux organisateurs de se rendre compte qu'ils ont souhaité bloquer la France hier et bloquer 65 millions de Français qui souhaitaient se déplacer. Mmh. Aujourd'hui, certains veulent reconduire cela et je le dis, moi j'entends ce message de colère, le gouvernement aussi, et nous y apportons des réponses. Mais une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, moi j'appelle chacun à la responsabilité, à la raison, à la sagesse. Oui, nous sommes dans un pays sage où les humeurs ne doivent pas s'exprimer en empêchant celles et ceux qui aujourd'hui, ces dimanches, veulent soit aller travailler, parce que beaucoup de gens travaillent, 15% des Français travaillent aujourd'hui, oui. Et ils ont aussi besoin de pouvoir aller travailler.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui était l'invité de Bernard Poirette ce matin sur Europe 1, au cœur de cette mobilisation des gilets jaunes. Il y a bien sûr la colère contre la hausse du prix des carburants et cette taxe qui doit encore augmenter en janvier au nom de la transition écologique. Et ce matin sur Europe 1, le ministre de la transition écologique, François de Rugy, a été clair, pas question de changer de cap, même s'il comprend les inquiétudes des manifestants.
Que dans ce mouvement des gilets jaunes, il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'expriment. Il y a l'inquiétude immédiate qui est celle des factures de carburant, évidemment. Et je suis évidemment prêt à ce que nous y revenions sur les solutions que nous proposons pour accompagner ce changement. Ce changement qui est nécessaire. Parce que si on ne fait rien, il y a des gens qui appellent à ce qu'on supprime les taxes sur les carburants ou à ce qu'on les baisse. Et on attend que les prix du pétrole baissent. Et puis demain, ils remontent sur les marchés mondiaux. Et ce ne sera pas dû aux taxes, hein. Si on arrête le mouvement que nous faisons sur la taxe carbone, ça veut dire aussi qu'on arrête tous les dispositifs d'accompagnement des Français que nous avons mis en place avant la hausse des prix du pétrole. Vous savez, moi je préférerais être un ministre qui annonce des baisses d'impôts. Seulement, il faut bien à un moment donné avoir des leviers d'action pour le climat.
François de Rugy qui était ce matin l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Voilà pour les premières réactions gouvernementales. Pas de déclaration officielle pour l'instant d'Emmanuel Macron. Le président qui vient d'arriver à Berlin pour un déplacement prévu de longue date. Nous serons en Allemagne dans un instant.
12h40, la suite du journal Fabienne Lemoyle.
Et donc, loin de la colère des gilets jaunes, Emmanuel Macron est à Berlin, un déplacement prévu de longue date en marge des cérémonies du centenaire de l'armistice. En Allemagne aujourd'hui, c'est le jour du souvenir, une journée dédiée aux victimes de la guerre, mais qui est l'occasion de célébrer la réconciliation et la paix. Ce matin, le président a participé à une rencontre avec 500 jeunes du monde entier et la journée va se poursuivre. Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante à Berlin avec un discours au Bundestag.
Oui, c'est la fin de la séquence commémorative avec en ce moment même le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument allemand aux victimes de la guerre. La guerre, la réconciliation, la paix, l'Europe, ces mots seront aussi au cœur du discours que le président doit prononcer d'ici moins d'une heure maintenant devant les députés allemands réunis en séance plénière. La dernière fois qu'un président français avait fait cet exercice au Bundestag, c'était Jacques Chirac, il y a 18 ans. Le symbole est fort, mais Emmanuel Macron veut aussi faire passer un message politique, car Berlin freine encore trop souvent ses plans de réforme pour l'Europe. Les députés allemands sont frileux sur les dossiers financiers, notamment, et ils ont le pouvoir de tout bloquer. Alors certes, on a eu avant-hier une percée sur la création d'un budget pour la zone euro. C'était un engagement pris il y a 6 mois. Français et Allemands ont désormais un document de travail concret qu'ils présenteront dès demain à Bruxelles. Mais sur l'Europe, il y a encore beaucoup de travail de conviction à faire ici auprès des Allemands. Angela Merkel semble s'être ralliée à l'idée d'une armée européenne, mais elle est affaiblie politiquement. C'est une chancelière sur le déclin qu'Emmanuel Macron va rencontrer cet après-midi, dernière étape de son déplacement à Berlin.
Hélène Cole, correspondante pour Europe 1 à Berlin. Toujours à l'étranger, Donald Trump était en Californie hier à Paradise, ville ravagée par les incendies. Incendies qui ont fait au moins 71 morts. Un millier de personnes est toujours portées disparues.
Le journal des sports.
Bonjour Christophe Lamarre.
Bonjour Fabienne.
Et ouf, doivent dire effectivement les hommes du 15 de France. Les rugbymen tricolores ont battu les Argentins. Un succès qui fait du bien au moral.
8 mois sans victoire, ça commençait à faire un peu long. Le 15 de France s'impose 28-13 face à l'Argentine. Et si la manière est encore perfectible, l'état d'esprit est là. Il reste maintenant à confirmer tout cela face aux Fidji la semaine prochaine. Il faut quand même savoir profiter de petites joies simples. On retrouve Axel May en direct de Marcoussi, le centre d'entraînement de l'équipe de France. Axel, on suppose que l'humeur des joueurs et du staff est plutôt du genre décontracté.
Oui, alors pour être précis, je suis encore en fait à l'hôtel des joueurs qui sont avec des sourires sur les visages ce matin malgré des mines fatiguées. Les joueurs sont tout simplement contents de retrouver le goût de la victoire après 5 défaites il y a quelques minutes devant la presse. Jean-Baptiste Elissalde, l'un des adjoints de Jacques Brunel, est venu dire « J'ai surtout plaisir à les voir heureux, capitalisons là-dessus ». Le sentiment aussi du devoir accompli, même si tout n'a pas été parfait face à l'Argentine. Loin de là, le jeu des Français reste encore brouillon. La reconstruction qui doit les emmener vers la Coupe du Monde dans moins d'un an est loin d'être achevée. Il faudra, vous l'avez dit Christophe, confirmer dès samedi prochain face aux Fidji. Et Jean-Baptiste Elissalde espère que pour les retrouvailles avec le Stade de France, le public sera plus nombreux que la semaine dernière.
Axel May en direct de l'hôtel des joueurs du 15 de France et le prochain match effectivement samedi face aux Fidji au Stade de France. D'ailleurs les Fidjiens qui ont balayé l'Uruguay 68-7 hier soir. Autre résultat qui fait sensation, c'est la victoire de l'Irlande contre les champions du monde sur leur pelouse s'il vous plaît. Les Irlandais ont battu les All Blacks 16-9. La Nouvelle-Zélande qui n'a pas inscrit le moindre essai au cours de cette partie.
Le football, la trêve internationale nous prive de Ligue 1, mais le championnat féminin continue. On a droit à un choc en prime time ce soir, PSG-Lyon.
Oui, une affiche de rêve entre les deux premiers du classement. L'occasion aussi de promouvoir le football féminin, puisque ce match sera diffusé à 21h sur Canal+. Une très belle exposition, mais l'entraîneur parisien Olivier Échouafny pense d'abord aux résultats face à des Lyonnaises qui dominent le football féminin européen.
Cette affiche doit être un véritable tremplin pour les amoureux du football aussi, parce que là où il y avait des sceptiques, maintenant il y en a de moins en moins. Et nous les premiers, hein, venant dans le football féminin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de plaisir à les entraîner, beaucoup de plaisir aussi à pouvoir les côtoyer. Ce sont de vrais athlètes de haut niveau, donc venez les voir et puis vous ferez votre opinion.
Voilà, l'entraîneur parisien Olivier Échouafny au micro de Julien Froment, PSG Lyon, coup d'envoi à 21h au stade Jean Bouin.
Dans le reste de l'actualité sportive, on commence avec le ski.
Oui, la Coupe du Monde de ski alpin, Marcel Hirscher signe le meilleur temps de la première manche du slalom de Lévi en Finlande. Les Français Clément Noël et Victor Muffat-Jeandet sont 3e et 4e, Alexis Pinturo est sorti de la piste. Le Masters de tennis à Londres, la finale va opposer l'Allemand Alexander Zverev et le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Et à moins d'une semaine de la finale de la Coupe Davis, le double français s'offre lui aussi sa finale. Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert affronteront la paire américaine composée de Jacques Sock et Mike Bryan. Et puis l'automobile avec le champion du monde WRC et de 6 pour Sébastien Ogier. 6e titre mondial pilote pour le français qui termine 5e du rallye d'Australie.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche. Et attention, si vous êtes en Occitanie, restez prudent, il y aura de la pluie et de la neige, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, il continue de pleuvoir fortement de l'Aude aux Pyrénées orientales et en montagne. La neige tombe abondamment dès 1500 mètres d'altitude. C'est la nuit prochaine que la situation se calmera. Il sera alors tombé en 24 heures l'équivalent d'un à deux mois de pluie de la montagne noire aux Corbières et 1 mètre à 1,30 mètre de neige fraîche entre Landorre, Font-Romeu jusqu'au massif du Canigou. Les risques de crues sont toujours très élevés. Sinon, c'est grand beau partout avec des maximales qui commencent tranquillement à fléchir. Baisse des températures réellement annoncée pour demain jusqu'en milieu de semaine. Donc pour cet après-midi, il fera 8 degrés seulement en région parisienne, 9 à Saint-Brieuc et dans le Lyonnais, 10 à Caen et Saint-Étienne, 14 degrés à Toulouse, à Pau et à Tarbes et enfin 17 à Marseille.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, toujours pas de prise de parole officielle de l'Élysée ou de Matignon sur la mobilisation des Gilets jaunes, une mobilisation qui intervient alors que la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe Davis. On en parle avec mon invité Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
12h49, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous Fabienne Lemoyle et votre invité.
Pour l'instant, donc pas de prise de parole officielle de l'Élysée avec Emmanuel Macron qui est en ce moment à Berlin après la mobilisation des Gilets jaunes hier. Ce sont les ministres qui sont montés en première ligne ce matin, à commencer par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur sur Europe 1. Une mobilisation des Gilets jaunes qui intervient alors que la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe chute une nouvelle fois dans le baromètre IFOP publié ce matin dans le journal du dimanche. Nous sommes justement avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour.
Bonjour.
Dans votre baromètre, je le disais, Emmanuel Macron dévisse encore, un point de moins, 25% de satisfaits, son plus bas historique. Le Premier ministre lui perd 7 points, 34% de satisfaits. Ce sondage reflète déjà justement l'impact de la mobilisation des Gilets jaunes.
Oui, c'est moins l'impact peut-être de la mobilisation des Gilets jaunes que l'inquiétude très forte, le mécontentement très élevé des Français sur la question du pouvoir d'achat. Et dans ce cadre-là, quand on interroge spontanément les Français sur les raisons du mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron, minoritaire dans toutes les catégories de population, c'est le pouvoir d'achat et son révélateur, son dynamiteur, à savoir cette question, la hausse des prix du carburant. Il cite moins le mouvement en tant que tel, c'est plutôt sa finalité et ce qu'il reflète, à savoir l'angoisse sociale des Français sur cette question de la vie quotidienne et de la cherté de la vie.
Et du pouvoir d'achat. Et dans quelle catégorie, quand même, il décroche le plus ?
Alors, il décroche surtout auprès des jeunes. Il y a eu un effet dévastateur de la petite phrase avec le jeune horticulteur qui aurait pu traverser la rue pour trouver un emploi.
Pourtant, il a fait son mea culpa après.
Oui, il a fait son mea culpa, mais les Français ne sont pas sur une logique de mea culpa pour eux. Un mea culpa, c'est plus une logique d'impuissance. On se souvient de la fameuse phrase de François Mitterrand il y a une vingtaine d'années. Contre le chômage, on a tout essayé. Alors, il décroche chez les jeunes. Il décroche dans les catégories populaires. Il n'est qu'à 13% de satisfaits chez les ouvriers. Une catégorie qui est très sensible à la question du pouvoir d'achat. Et puis, il y a quelque chose qui est peut-être cassé avec les Français. Symboliquement, il recule de 4 points auprès des salariés du secteur privé, alors même que le gouvernement, vous l'avez vu, a beaucoup mis en avant la baisse des cotisations salariales. La deuxième baisse, c'est le fait que le salaire net des salariés allait augmenter à la fin du mois d'octobre. Ça n'empêche pas le mécontentement et ça n'empêche pas la critique sur l'absence de résultats sur cette question du pouvoir d'achat.
Alors, je parlais de mea culpa. Il a de nouveau fait son mea culpa cette semaine en disant sur TF1 « Je n'ai pas vraiment réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Est-ce que ça va suffire pour remonter la pente ?»
Alors, c'est vrai qu'on l'a vu dans notre enquête, dans les propos spontanés des Français, la critique en termes d'arrogance a fortement reculé. Effet peut-être de cette itinérance mémorielle, de ce mea culpa, même si, comme je le disais, les Français sont sur une logique de résultat, sur une logique est-ce que l'action menée, est-ce que les réformes menées peuvent changer ma vie et peuvent améliorer mon quotidien. Le mea culpa, il l'a déjà fait en plus 3 fois. Il l'a fait le soir du remaniement ministériel suite au départ de Gérard Collomb. Donc, c'était une impression de déjà-vu et ça ne règle pas leurs problèmes sur des questions très structurantes, brûlantes que deviennent le pouvoir d'achat. Sous le quinquennat de François Hollande, c'était l'inversion du chômage qui était un peu la bataille.
C'était la phrase qu'il a marquée pendant tout son quinquennat.
Et qu'il a finalement perdu cette bataille de l'inversion, ça s'est inversé en toute fin de mandat. Il semblerait, et c'est sans doute un vrai défi pour le président actuel, que le quinquennat tourne autour de cette bataille pour l'amélioration du pouvoir d'achat. Pour l'instant, les Français ne la voient pas.
Alors justement, il a perdu 15 points depuis l'affaire Benalla. Il a eu un été catastrophique au niveau de sa cote de popularité. Est-ce qu'il peut remonter la pente ? Vous dites dans le journal du dimanche, il est sur un véritable toboggan.
Alors, oui, la chute est forte, vous le disiez, il a perdu une vingtaine de points.
Une
depuis...
chute qu'on avait vue aussi avec François Hollande,
oui,
avec Nicolas Sarkozy.
Sarkozy, alors il a quand même quelques atouts. Il a un socle solide. Auprès des personnes qui sont satisfaites de lui, il y a toujours cette idée qu'il est déterminé, qu'il va au contact des Français. Encore un effet positif de l'itinérance mémorielle.
Même si cette itinérance mémorielle s'est traduite par de nombreuses interpellations, particulièrement d'ailleurs sur les revendications qu'on a retrouvées dans le mouvement des Gilets jaunes.
Tout à fait. Il est allé au contact et s'est pris de plein fouet, si je puis dire, le mécontentement des Français. Il y a l'affaire Pétain qui a aussi brouillé le message, mais ça a quand même eu des effets positifs auprès de son socle. Il a encore 84% de satisfaits chez les sympathisants d'En Marche, ce qui est aussi une opportunité pour lui, et là c'est une vraie différence, une vraie rupture par rapport aux deux quinquennats précédents, c'est que l'impopularité présidentielle ne trouve pas de réceptacle dans les partis d'opposition. Il n'y a pas une envie de France Insoumise, pas une envie de droite, pas une envie de Rassemblement National, mais bon, un réceptacle ça finit par se trouver, mais c'est aussi Un des éléments d'explication de ce mouvement, de cette OSNI, de cet objet social non identifié qui constitue les gilets jaunes, c'est que vu qu'il n'y a pas de réceptacle au mécontentement, à l'insatisfaction.
Personne, d'après vous, Frédéric Dabi, ne peut en profiter.
Bah, pour l'instant, on le voit très bien dans les enquêtes IFOP fiduciale pour Match.
Par exemple, Marine Le Pen, qui se félicite en ce moment justement des Gilets jaunes, ne peut pas profiter de ce mouvement.
Elle en profite indirectement dans les enquêtes d'attention de vote européenne. C'est désormais le Rassemblement national qui arrive en tête. N'oublions pas qu'en termes de popularité, Marine Le Pen reste impactée en termes de présidentialité, en termes de capacité à être une alternative au président Macron par son débat catastrophique d'entre les deux tours.
Mais vous le dites, Frédéric Dabi, le test en ligne de mire, ce sont ces européennes en juin prochain.
Oui, tout à fait, c'est le premier scrutin du quinquennat. Maintenant, le spectre pour le gouvernement actuel, c'est un vote sanction, comme on l'avait vu pour François Hollande et la gauche en 2014. Le PS n'avait fait que 14%. En Marche a perdu 10 points depuis le mois de mai, mais on est encore sur une grande incertitude. Les Français ne sont pas rentrés en campagne électorale.
Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, d'avoir été avec nous en studio. Et on voit effectivement que l'impact de la mobilisation des Gilets jaunes commence déjà à se lire dans votre baromètre publié ce matin par le Journal du Dimanche. Merci beaucoup.
Dans un instant, le rappel des titres. Et puis on partira en vadrouille aux côtés de Sophie Larmoyer, une heure durant, comme chaque dimanche, de 13h à 14h. Elle ouvrira les carnets du monde. Bon dimanche à l'écoute d'Europe 1. Un coup d'œil sur l'actu de ce dimanche 18 novembre, Fabienne Lemoyle.
La mobilisation des Gilets jaunes avec encore des points de blocage un peu partout sur le territoire. Le ministre de l'Intérieur sur Europe 1 ce matin parlait de 150 points à surveiller. La société d'autoroute Vinci parle d'une cinquantaine de rassemblements rien que sur son réseau. Vous pouvez retrouver la carte de France de ces points de blocage sur notre site europe1.fr. Ce sont en tout 287 000 personnes qui ont manifesté hier. Mobilisation marquée par la mort d'une manifestante en Savoie et par de nombreux incidents. 400 blessés, 14 dans un état grave. Bilan dressé par le ministère de l'Intérieur avec 28 pompiers, policiers, gendarmes touchés. Christophe Castaner en appelle à la responsabilité des Gilets jaunes. Le sport et le ouf de soulagement du 15 de France. Enfin une victoire, c'était hier soir face à l'Argentine, 28-13. Et puis la météo, attention si vous êtes dans la région des Pyrénées ou du Languedoc, qu'il va continuer à pleuvoir fortement de l'Aude aux Pyrénées-Orientales. Partout ailleurs, c'est du soleil et côté température, ça baisse. 8 degrés à Paris cet après-midi, 10 à Caen et Saint-Étienne, mais quand même 17 à Marseille.
C'était Fabienne Lemoyle. À ce soir, Fabienne, 18h pour votre grand journal du soir aux côtés de Philippe Vandel. Il est 13h.